Bonjour et bienvenue dans le magazine de la rédaction de Radio Mon Pays, dans l'actualité. Alors, comme chaque année, la CGT Finances Publiques lance une campagne de sensibilisation à l'impôt. Depuis quelques jours, les syndicalistes CGT diffusent des tracts sur lesquels on peut lire ce que pourrait être, ce que pourrait, en tout cas, quels seraient les risques que ferait peser la mise en œuvre de la retenue à la source. Et ce mardi 10 mai, l'Union départementale CGT 31, la CGT des Finances Publiques de Haute-Garonne ainsi que la Fédération CGT des Finances Publiques organisaient une conférence débat sur les questions des finances publiques, mais aussi sur l'évasion fiscale et bien d'autres points. Et ce sont ces questions dont on va parler avec nos invités du jour, qui sont Alexandre Derigny, qui est secrétaire fédéral de la Fédération des Finances CGT. Bonjour.
Bonjour.
Séverine Bolognesi-Fourcade, qui est secrétaire de la CGT Finances Publiques Haute-Garonne.
Bonjour.
Et Boris Baudouin, que l'on ne présente plus sur Radio Mon Pays, qui est membre de l'Union départementale CGT 31, mais aussi membre de la CGT des Finances Publiques 31. Alors, je l'évoquais à l'instant, bonjour Boris, pardon, je l'évoquais à l'instant, l'évasion fiscale, on a entendu parler à l'occasion donc de la révélation du scandale des Panama Papers. Les Panama Papers, je rappelle que ce sont ces documents qui issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, qui ont révélé des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore, ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés. Et parmi eux se trouvent des hommes politiques, des milliardaires, des sportifs de haut niveau ou des célébrités. Alors, dans un premier temps, comment avez-vous reçu cette information et surtout qu'est-ce qu'elle révèle de notre système? Alexandre, peut-être Derigny.
Disons que déjà ça n'a pas été pour nous une immense surprise. Hein. C'est-à-dire ce qu'on a là, l'affaire qui est parue, c'est une affaire qui paraît après de bien nombreuses affaires. Hein. Il y a eu LuxLeaks, SwissLeaks, HSBC, etc. Donc c'est pas une réelle surprise. D'autre part, ce qui est presque plus inquiétant, c'est que très objectivement, c'est l'arme qui cache la forêt, ou en tous les cas la partie émergée de l'iceberg. C'est donc ce qui doit inquiéter les citoyens, c'est qu'on est aujourd'hui dans un système qui permet objectivement de pouvoir éluder l'impôt et donc de pas contribuer au pot commun comme devrait le faire chaque citoyen. C'est-à-dire qu'on a une société un petit peu à deux vitesses, où les plus puissants peuvent s'exonérer de l'impôt. Mmh. Alors que cette année, on a 1% de la population mondiale qui détient plus de la moitié des richesses mondiales. Eh bien, c'est particulièrement scandaleux et inquiétant.
Pourtant, à la suite de tous ces scandales, on a souvent entendu les hommes politiques, de nombreux chefs d'État dire il faut mettre fin aux paradis fiscaux, il faut lutter contre l'évasion fiscale. Même François Hollande avait fait un discours au Bourget en se disant être le candidat contre la finance, en tout cas en étant l'adversaire de la finance. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a véritablement une lutte contre cette évasion fiscale et contre ces paradis fiscaux? Parce qu'on se dit, en fait, ils ont tout à y perdre, ces chefs d'État-là, puisque cet impôt-là, c'est un, pour eux, en tout cas, ce sera un outil, un levier efficace pour mener des politiques publiques. Où est-ce qu'on en est de cette lutte-là et comment ça s'explique? Comment vous expliquez justement cette espèce de frein politique face à ça?
Il y a le doigt de la coupe aux lèvres. Entre ce que les politiques nous disent, nous en tant que citoyens, sont bien obligés. Effectivement, quand on fait partie des 99% qui se font flouer dans l'histoire, on attend de nos politiques qui montent au créneau en nous disant « non, on va remettre un petit peu les affaires en place et on va prendre le taureau par les cornes et puis s'attaquer réellement à cette problématique de l'évasion fiscale ». Mais dans la réalité, il y a aussi d'autres pressions. Il y a ce 1% qui, lui, n'a pas du tout intérêt à ce qu'on entrave ces affaires et qui est malheureusement beaucoup trop influent. Il est évident qu'il y a les grands groupes les grandes multinationales qui, elles, ont tout intérêt à ce que le système perdure, et elles font un lobbying, y compris sur les États, extrêmement important. C'est évident qu'il y a un chantage à l'emploi, aux délocalisations qui est très forte, et donc qui pousse à ce dumping, on n'arrête pas de parler de dumping fiscal, mais qui pousse les États, effectivement, comme vous l'avez dit, à une logique complètement destructrice. On l'a vu avec l'Irlande, c'est-à-dire qu'à force de courir comme ça, avoir une espèce de course à l'échalote où on va être au moins 10 ans fiscal et entre guillemets aussi au moins 10 ans social, eh bien, résultat des courses, on se prive de recettes qui sont extrêmement importantes pour le fonctionnement de l'État, et ce qui met quasiment des États en liquidation judiciaire, presque.
Justement, il faut évoquer l'importance que peut avoir l'impôt, puisque c'est aussi la démarche que vous avez aujourd'hui à la CGT au travers de cette campagne de sensibilisation. On en revient à rappeler à quoi sert l'impôt. À quoi sert l'impôt ? Est-ce que l'un de vous trois peut me rappeler à quoi il sert, ou en tout cas à quoi il devrait servir, Boris Baudouin ou Séverine ? Séverine.
L'impôt sert à tout ce qui est service public, donc c'est vrai que dans le 4 pages qu'on distribue, c'est très justement rappelé, le titre est un peu provocateur puisqu'on l'a intitulé « Et si les impôts n'existaient plus ?» Quand on les distribue, quand on distribue ce tract, la première réaction de certaines personnes, c'est de dire « Ah ben très bien, je paierai moins ». Mais en bas de la page, on a illustré ce phénomène de ne plus payer d'impôts par ce qu'on paierait si on ne payait plus d'impôts. Donc on paierait les hôpitaux, les écoles. Tout le service public qui est rendu par l'État deviendrait payant. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une nécessité à avoir un impôt le plus juste possible, mais il faut que tout le monde comprenne l'efficacité et le rôle de cet impôt.
Boris Baudouin.
Oui, c'est ce que vient de dire Séverine. En fait, c'est les impôts, en fait, c'est pour répartir les richesses. Puisque l'objectif normalement de l'impôt, à chaque fois on recite souvent quand on fait ce genre d'intervention les deux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme 1789, où chacun doit contribuer en fonction de ses moyens et après d'avoir un droit de regard sur la répartition de ses richesses. Donc l'impôt il sert à la vie de tous les jours, c'est-à-dire le matin, on se lève, on a peut-être un logement qui a été financé par exemple, par le livret A. Après, il peut y avoir la route qu'on a prise ou le transport en commun. On a mis ses gamins à la crèche ou à l'école. Après, on va manger à la cantine. Voilà. Enfin, on ne s'en rend pas compte forcément dans la vie de tous les jours du nombre de choses qui peuvent être financées par l'impôt. Mais c'est vrai ce qu'a dit Séverine. Les gens, ils ont un ras-le-bol fiscal par rapport, pas forcément à la facture qu'ils payent, mais aussi par rapport à tous ces scandales, quoi. Et Panama Papers, même si, comme l'a dit Alexandre, c'est pas surprenant pour nous, parce qu'il y aura encore d'autres affaires, malheureusement, qui vont sûrement sortir, quoi. Mais ça participe un peu à ce tous pourris, à ce « il y en a qui en profitent », et comment après le combattre, il y a des choses qui peuvent être faites sur... notamment déjà en matière législative, en matière humaine. On revient toujours sur le rapport qui avait été fait à l'été 2012 au Sénat, qui avait été voté à l'unanimité et qui avait rapproché d'ailleurs les chiffres qui étaient annoncés par les organisations syndicales, 60 à 80 milliards, 80 milliards de fraudes par an. Après, on pourrait parler de la fraude à la TVA, etc. quoi. Mais ça montre que de l'argent, il y en a. Il y en a qui en profitent pour y échapper. Après, il y a des petites mesurettes qui sont faites, notamment quand Bercy avait dit pour ceux qui avaient pu faire de l'évasion fiscale, si vous venez taper à ma porte, je vous retourne dans mon bureau et on se mettra d'accord et vous n'aurez pas de pénalité. Par contre, si on a un contribuable lambda, entre guillemets, on va peut-être plus lui faire payer ses pénalités et mettre tout l'appareil législatif pour qu'il paye son impôt. Tandis que pour les plus riches, quelque part, c'est un peu l'oligarchie, on s'arrange entre nous. Et c'est sûr que les 1% qu'a cité Alexandre, eux, ils ont tout intérêt à ce que ça perdure. D'ailleurs, Alexandre aussi citait l'optimisation fiscale. La une des échos ce matin, c'est Bercy envisage peut-être de baisser l'impôt société parce qu'il y aura une pression européenne au nom de la fameuse compétitivité. Il faut réduire l'impôt en France pour que les entreprises s'installent, quoi. Sauf que souvent, les entreprises s'installent parce qu'elles bénéficient de subventions, des infrastructures, des services publics, hein. Une entreprise, quand elle s'installe, elle regarde s'il y a une école, une route, etc., quoi. Et après, ça ne veut pas dire parce qu'on va baisser qu'ils vont venir. Ils vont venir pour bénéficier des aides et après, ils se barreront comme d'autres.
Alexandre Derigny, est-ce qu'on peut faire justement cette nuance entre évasion fiscale et puis optimisation fiscale? Je crois que c'est peut-être pas très très clair dans l'esprit de ceux qui nous écoutent.
Oui, alors c'est pas très clair dans l'esprit des gens, mais c'est pas non plus très clair pour ceux qui l'utilisent. Mmh. Parce que en fait, justement, lorsqu'on parle d'évasion, il y a à la fois de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire l'optimisation fiscale, c'est ce qui est totalement légal. Par exemple, il y a des crédits d'impôt pour les sociétés, donc ça c'est tout à fait légal. Ils vont utiliser un crédit d'impôt, ce qui va réduire leur impôt, c'est de l'optimisation. Et puis, il y a l'autre partie, l'autre face, qui est la fraude fiscale. Et dans l'évasion fiscale, il y a un peu des deux. Mmh. C'est en règle générale, lorsqu'on crée une société écran au Panama, c'est qu'on a un petit peu souvent des trucs à cacher. C'est-à-dire, le salarié lambda, quand il a une petite prime à la fin du mois, il va pas voir son banquier en disant « Tiens, est-ce que tu peux m'ouvrir un compte au Panama ?» quoi. Mmh. Donc, on voit qu'il y a une frontière qui est pas évidente. D'ailleurs, les gros groupes, ils le font, ils s'en servent d'une manière très importante. Il y a Google qui se sert d'optimisation et donc de schémas qui sont tout à fait légaux. Mais dans ces schémas, ils vont essayer de pousser les choses au maximum et en fait, ça les rend illégaux. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois avoir dans un schéma légal, ils vont pousser le schéma au-delà de la limite et donc il y aura à la fois de la légalité et de la fraude dans un même schéma d'optimisation. Donc on voit que les frontières, c'est à la fois différent. L'optimisation, c'est légal. La fraude, c'est illégal. Mais les sociétés jouent sur une espèce de zone d'ombre pour pouvoir payer le moins d'impôts possible. Et d'ailleurs, ça pose une question. C'est-à-dire que plus on a d'optimisation, plus il y a une législation qui est compliquée, où on a des niches fiscales par-ci, par-là, plus on peut s'engouffrer dans ces niches fiscales pour justement les utiliser à des fins frauduleuses. Donc ça aussi, ça doit nous faire réfléchir à demander à ce que le système fiscal il soit réformé, soit rendu plus juste, mais plus simple aussi, y compris pour lutter contre la fraude.
Ouais, mais tout ça, c'est dans un contexte quand même d'une mondialisation avec une compétition acharnée. Donc comment justement peut-on être attractif hein, pour des entreprises étrangères lorsqu'on est face à ce dumping fiscal là? Est-ce qu'on a des solutions et est-ce qu'on a des outils?
Il y a déjà des solutions, il y a déjà des chiffres qui sont intéressants. On nous dit, attention, les millionnaires, par exemple, si on les taxe trop, ils vont se barrer. Dans la réalité, le système fiscal français, c'est pas un paradis fiscal. Il y a des zones en Europe et dans le monde où on va payer moins d'impôts. Et pourtant, c'est le quatrième lieu dans le monde où on a le plus de millionnaires. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Mais en fait, dans la réalité, pourquoi une personne s'installe sur un territoire? C'est pas pour des raisons fiscales. Il vient s'installer sur un territoire parce qu'il va pouvoir être bien soigné, parce qu'il va avoir des services publics de qualité. Et une entreprise, c'est la même chose. Comment on peut imaginer que l'on va pouvoir lutter à armes égales avec des pays sous-développés? Est-ce qu'on va pouvoir attirer, c'est-à-dire baisser suffisamment notre niveau de prélèvements obligatoires, nos niveaux aussi de rémunération des salariés, avec, on va concurrencer des pays comme le Bangladesh, tout ça, mais c'est complètement illusoire.
Mmh. La même question se pose sur les salaires, en fait.
C'est exactement le même problème. Nous, si on veut lutter, c'est au contraire en donnant aux entreprises, et Boris l'a dit, c'est en permettant aux entreprises d'avoir des moyens de se développer avec de la haute technologie, avec des employés qui sont bien formés, donc avec une éducation entre guillemets d'excellence et avec des services publics de qualité. C'est évident que pour nous, on n'a aucun intérêt, y compris économique, à se lancer dans cette course.
D'accord. Alors, généralement, lorsque ce débat est lancé, on évoque aussi la dette de la France. Et parce que la France est endettée, eh bien, il faut évidemment qu'elle engage une baisse de ses dépenses publiques. Là encore, qu'est-ce que cela engendrerait et qu'est-ce que vous répondez face à des gens qui vous disent, écoutez, quand même, la dette de la France est 94% du PIB?
Mais tout ça, enfin, je suis désolé, mais c'est un petit peu bidon, quoi. Parce que ce qu'on peut observer ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la dépense publique. Il y a eu une baisse des recettes publiques. Mmh. Et la baisse des recettes publiques, elle profite en plus pas aux plus humbles, qui eux n'ont pas vu leur prélèvement obligatoire baisser, mais elle profite aux plus riches. Donc c'est quand même un sérieux souci. Donc la question, c'est pas tant de savoir pour redresser les comptes publics, pas tant de savoir, il faut absolument baisser les dépenses. C'est au contraire chercher des recettes. Et les recettes, c'est pas difficile. Là aussi, Boris l'a dit, de l'argent, il y en a largement. Allons déjà chercher l'argent là où il se trouve. Lorsque l'on compare les chiffres, on a aujourd'hui le déficit public, c'est 70 milliards. La fraude, c'est-à-dire ce qui est illégal, 80 milliards. Et là aussi, tu l'as dit, mais on nous riait au nez. Moi, je me souviens avoir eu des discussions avec des ministres, il y a encore un peu plus de 5 ans, ils nous riaient au nez lorsqu'on disait 80 milliards, mais vous plaisantez, truc. Et ce sont maintenant les mêmes qui avancent ces chiffres-là.
Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido, ni he repartido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso.
Es falso, no defraudo al fisco. Nunca fui, le afirmó, pagado en metálico. Ni cuenta, ni sueldo, en un país extranjero. No tengo ni un euro en el banco suizo.
Je n'ai jamais, jamais, je vous regarde dans les yeux, reçu le moindre euro illégal. Je n'ai jamais reçu de l'argent de cette manière-là.
C'est pas moi, non c'est pas moi, qui ai tiré la queue du chat. Así suena la canción de la corrupción. C'est pas moi, non c'est pas moi, qui ai tiré la queue du chat. En todas partes de Europa, se habla la misma lengua. La sombra de los sobres sobre los dirigentes es una manipulación y total difamación. No tengo nada que ver con estas historias. No me voy a distraer por algunas protestas.
Je demande catégoriquement, je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
C'est pas moi, non c'est pas moi, qui ai tiré la queue du chat. Así suena la canción de la corrupción. C'est pas moi, non c'est pas moi, qui ai tiré la queue du chat. En todas partes de Europa, se habla la misma lingua.
Oui. Alors il y a quelque chose d'assez paradoxal dans la tête des gens, parce qu'à la fois ils ont de moins en moins de services publics, et dans le même temps ils ont l'impression, et parfois pas l'impression, de payer toujours de plus en plus d'impôts. Est-ce que c'est pas ça aussi qui entraîne une espèce de repli chez les gens, qui n'adhèrent plus du tout à la question de l'impôt? Puis, enfin, en France en plus, les gens ne rechignent pas habituellement à payer des impôts, et là c'est vrai que depuis quelques années on voit que les gens adhèrent de moins en moins à la question de l'impôt. Est-ce qu'en fait c'est pas cette dichotomie-là entre la perte des services publics et cette augmentation des impôts? Est-ce que l'un de vous deux veut répondre, Boris ou Séverine?
Je pense que les personnes comprennent ce qui se passe. C'est-à-dire que si je prends par exemple tout ce qui est issu des collectivités locales, là par exemple les communes sont en train de voter leur budget, et qu'est-ce qu'on voit dans la presse globalement? C'est les taux des impôts locaux, taxes d'habitation, fonciers, bâti non bâti, ils ont augmenté. Par contre, la plupart des collectivités n'ont pas touché à ce qu'était la CFE, l'ex-taxe professionnelle, parce qu'ils veulent essayer de sauvegarder que l'entreprise puisse rester sur le territoire. Donc ce transfert en fait de l'imposition des professionnels sur les particuliers, je pense que ça les personnes s'en rendent compte de plus en plus. Donc ce qui crée un peu le ras-le-bol, c'est-à-dire qu'ils voient toujours la facture un petit peu qui augmente. On peut reprendre aussi la demi-part qui avait été supprimée pour les retraités il y a 2-3 ans maintenant. Enfin tout ça fait, c'est toujours les particuliers en fait qui voient un peu leur facture augmenter. Dans le même temps, ils voient les collectivités que leur dotation globale de fonctionnement qui se réduit comme peau de chagrin. Je crois que c'est hier le média acteur public qui disait que de plus en plus on va aller vers un transfert des services publics des collectivités vers le privé. On l'a vu avec tout ce qui était activité périscolaire, quoi, sur la réforme des rythmes scolaires, où maintenant on est obligé de partir sur du privé. Donc les impôts augmentent, En plus, maintenant, il faut payer la facture à une société privée pour des choses qui étaient faites soit par la collectivité, soit autre. Donc ça, ça alimente, je pense, le ras-le-bol fiscal, plus après toutes les affaires, Panama Papers, mm-hmm. les salaires des patrons qui sont doublés, là, je pense à Carlos Tavares, etc. Enfin, tout ça, ça, ça fait partie, c'est un tout, quoi. Et même si après, comme tu l'as dit justement, il y a quand même un consentement fort à l'impôt, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, ils sont attachés à ça, et même si des fois, on peut avoir un petit rejet, je veux dire, surtout à cette période-là, quand il faut faire sa déclaration, on sait ce qu'on peut payer. Après, les gens, ils sont conscients quand même que s'il n'y avait pas d'impôt, tous les services publics à la française, entre guillemets, ce qui a permis d'absorber la crise 2008, hein, c'est Sarkozy qui le disait, hein, c'est pas moi, je sais pas si c'est un très grand progressiste, mais il a confirmé, voilà. Ils sont quand même attachés à ça, quoi. Ouais. Et par contre, il y a quand même ce ras-le-bol qui est entretenu, on pourrait parler des pigeons, enfin tout. Toutes ces affaires-là qui fait qu'à un moment donné, il y a toujours pour les mêmes, quoi.
D'accord. Alors, on va parler maintenant, si vous le voulez bien, de l'impôt sur le revenu, puisque dans les documents de campagne, de la campagne que vous menez actuellement, vous déclarez que l'impôt sur le revenu est en danger. Cet impôt qui est le plus progressif hein, en France, enfin en tout cas dans l'arsenal fiscal dont on dispose, est depuis des années menacé. Il perd notamment de sa progressivité. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer, Alexandre Derigny peut-être ?
Oui, c'est-à-dire que... Effectivement, comme tu l'as dit, l'impôt sur le revenu, c'est quasiment le seul impôt progressif, en fait. C'est-à-dire que c'est le seul impôt pour lequel on paye l'impôt selon ses moyens. Donc, quand on parlait de... Boris le disait, hein, c'est un peu la définition de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, c'est un impôt qui paraît être largement le plus juste. Sauf que durant ces 30 dernières années, eh bien, les taux d'imposition baisse de plus en plus, et il y a de plus en plus de niches fiscales, c'est-à-dire de crédits d'impôt que l'on peut utiliser pour faire baisser le montant de son impôt. Donc, résultat des courses, effectivement, c'est un impôt qui a déjà été largement attaqué. Alors, on disait, c'est d'ailleurs rigolo, hein, on dit en ce moment, c'est un petit peu dur, c'est le moment de la déclaration d'impôt sur le revenu, les gens ils sont un peu crispés sur l'impôt. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que les gens ben, ils savent pas ce qu'ils payent comme impôt. C'est-à-dire que nous, autour de la table, on ne sait pas à 100 euros près ce qu'on paye comme impôt par an. Parce qu'en réalité, l'impôt sur le revenu, ça ne pèse quasiment rien. Ce qui pèse réellement, ce sont toutes les taxes indirectes, comme la TVA ou d'autres taxes, oui. Où là, il y a une très grosse pression fiscale sur chaque citoyen.
Justement, parce que cette perte de progressivité de l'impôt sur le revenu s'est faite en concomitance avec la hausse de la TVA. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un danger de voir la disparition de l'impôt sur le revenu avec au profit d'une ce qu'on appelle une taxe flat aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce qu'on peut voir ça en France, Séverine peut-être ou Alexandre ?
Oui, c'est ce que ben l'arrivée de la retenue, enfin l'annonce de la retenue à la source nous fait craindre le pire puisque il va être, enfin cet impôt qui est, comme le disait Alexandre, le plus juste même si il a été largement attaqué, il sera prélevé par les entreprises directement sur le salaire, donc le consentement à l'impôt dont on parlait tout à l'heure va disparaître.
C'est-à-dire sur le salaire en cours.
Sur le salaire en cours, donc oui.
En temps réel, quoi. Pas sur le revenu de l'année, l'année passée.
Ouais, en temps réel, mais avec l'imposition, enfin le taux d'imposition qui sera calculé par l'administration fiscale de l'année précédente quand même. D'accord, donc il y aura quand même de toute façon une régularisation avec une déclaration à faire. Et donc c'est vrai qu'on craint, puisqu'actuellement l'impôt sur le revenu est un des impôts qui est mis en recouvrement le plus facilement, surtout avec les mensualisations, etc. Donc on a 99% de taux de recouvrement de cet impôt. C'est pas du tout le cas de la TVA. La TVA est collectée par les entreprises et on a énormément, les services des impôts des entreprises ont énormément de mal à mettre en recouvrement cette TVA. Donc ça va devenir le même. Déjà ils sont en train de le faire basculer pour que ça devienne le même style d'impôt. Puisque au niveau du prélèvement en tout cas, même si ça va quand même rester avec des taux d'imposition. Donc c'est vrai que tout est à craindre sur la disparition de cet impôt et parallèlement l'augmentation peut-être de la TVA ou d'autres impôts de ce type. Ouais.
Qu'est-ce qu'elle va engager cette réforme sur le plan politique ? Parce que c'est pas anodin, l'État décide de ne plus prélever l'impôt et cet impôt va être prélevé par une entité privée. Qu'est-ce que cela implique sur le plan politique ? Boris Baudouin, peut-être ?
Ben, ça implique qu'encore une fois, on va donner une manne des recettes de l'État entre les mains des entreprises. Alors je dis pas que les entreprises sont toutes crapuleuses, frauduleuses, etc. Hein, mais c'est ce que je veux dire. Par contre, quand on préparait cette émission, on regardait, donc, si on fait le lien entre la TVA et l'impôt sur le revenu, si la retenue à la source se met en place, grosso modo, il y aura plus de 50% des recettes de l'État qui seront recouvrées entre les mains de, des entreprises. Puisque, grosso modo, l'impôt sur le revenu, ça représente même pas 20% à peu près maintenant des recettes de l'État, 20-25%.
Ouais, c'est un petit quart.
Un petit quart, voilà. La TVA, c'est... plus qu'un gros...
c'est la moitié. Ouais.
Donc, tout ça, ça va être entre les mains des entreprises. Avec derrière, la Fédération des Finances a fait un gros travail là sur le dossier de presse qu'avait présenté Bercy au moment de la présentation de la retenue de la source. Je vous incite à aller sur le site de la Fédé des Finances. Il y a un dossier, en fait, commenté par la Fédé qui a repris exactement le dossier de presse. Et dedans, on voit un bon à savoir. Alors, ce qui est écrit, c'est Bercy qui l'écrit. Hein, c'est pas la Fédé des Finances. C'est écrit, donc les entreprises bénéficieront d'un effet positif sur leur trésorerie. En effet, elles reverseront l'impôt à l'administration fiscale plusieurs jours après le versement du salaire. C'est-à-dire, alors je ne parle pas des PME, etc., mais les grands groupes qui ont des masses salariales conséquentes, ils vont avoir pendant 4, 5 jours, 6 jours, une manne financière de côté, ils vont pouvoir la faire spéculer, donc on va encore alimenter les bulles financières spéculatives, etc. Tout ce qui a fait que le crack du système capitaliste, enfin un nouveau crack en 2008. Et surtout derrière, toutes les questions se posent. Si jamais l'entreprise fait banqueroute, il y a déjà des difficultés, Séverine l'a dit, à recouvrer la TVA. On ne parle même pas des cotisations sociales. Enfin, si on discutait avec nos camarades de l'URSSAF, etc., enfin, c'est aussi une gabegie. Et surtout derrière, il y a, je pense aussi, cette volonté toujours du gouvernement, par l'intermédiaire d'instaurer la retenue à la source, de faire la fusion CSG impôt sur le revenu. Quoi. Leur objectif final, c'est celui-là. D'ailleurs, c'était dans le programme de François Hollande. Alors, j'espère qu'il va réussir à résorber le chômage. Autant, j'espère qu'il ne fera pas la fusion CSG hier. Mais c'est vraiment inquiétant, parce qu'il va y avoir une grosse masse financière au sein des entreprises, en plus de la TVA, avec toutes les dérives, on le redit, sur le recouvrement de cette TVA.
Mais Alexandre Derigny, pourtant, nous présente cette réforme comme quelque chose de moderne, et on nous dit, là encore, qu'il faut s'aligner sur les pays qui ont déjà la retenue à la source.
Oui, alors le problème, c'est qu'on compare toujours ce qui n'est pas comparable, donc c'est un petit peu énervant à force, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas du tout notre système fiscal, et c'est en ça que la question de la flat tax, elle n'est pas du tout idiote. D'ailleurs, certains membres de l'opposition mettent en avant cette idée de flat tax en France. Pourquoi ? Parce que le système fiscal français tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'il soit progressif, le fait également qu'il y ait une conjugalisation, c'est-à-dire que le système fiscal n'est pas individualisé. On compte nos impôts avec notre époux, notre épouse, avec les enfants, etc. Mais ça rend la retenue à la source quasiment impossible à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait toute une année écoulée pour déterminer quel est le taux d'imposition. Donc on ne peut pas calculer en temps réel le montant de l'impôt. Pour calculer en temps réel le montant de l'impôt, il faut mettre en place une flat tax, c'est un taux unique pour tout le monde. Et lorsqu'on met en place une flat tax, c'est très simple. Si on met en place une flat tax à 10%, tous ceux qui payent aujourd'hui moins de 10% d'impôts, ils vont être les perdants de la réforme. Et plus on paye d'impôts sur le revenu, et plus on va être gagnant dans cette réforme. C'est aussi simple que ça.
D'accord. Donc cet impôt sera collecté par les entreprises. On a vu quand même un certain nombre d'entreprises s'opposer à cet impôt. Donc ça veut dire quand même qu'il y a aussi des charges. Enfin en tout cas une charge pour un certain nombre d'entreprises à mettre en place ce prélèvement.
Oui, ne serait-ce que le logiciel de paye, quoi. Parce que là, c'est dit aussi dans le dossier de presse de Bercy, c'est-à-dire qu'ils ont prévu une mise à jour des différents logiciels de paye des entreprises, tout se passera bien, mais après, ils ont bien vu, d'ailleurs, ça a été dit aussi récemment par la CGPME, il y a une inquiétude aussi de gestion vis-à-vis des salariés, c'est-à-dire que quand le salarié va avoir son taux d'imposition qu'il va découvrir sur son bulletin de salaire, comme ce sera sur le bulletin de salaire, il va aller toquer au service du perso de son entreprise, quoi. Mais pourquoi vous m'avez mis le taux de, 7-8%, moi, c'est pas ça, quoi. Et peut-être que quelque part aussi, même s'il peut y avoir un côté blanc, un côté noir, mais ils se disent que si demain, il risque d'y avoir aussi une connaissance du patrimoine, enfin de la vie.
Oui, c'est il y a une intrusion dans la vie privée.
De la vie privée des salariés. Ouais. Il y a des chefs d'entreprise qui ont dit moi, je veux pas à gérer ces embrouilles, quoi. Au contraire, il y en a qui voudraient, quoi. Donc c'est sûr que autant je pense les grands groupes, eux, ils ont vu la manne de trésorerie qui est mis en avant. Ils se sont dit on va pouvoir se faire un petit peu d'argent sur l'argent de l'État. Et autant après, il y a comme dès qu'il y a des réformes, les petites boîtes, les PME, etc., qui elles ne sont pas du tout aidées. Elles se disent ça va encore nous arriver un truc sur la tête. Donc peut-être la contrepartie qu'ils vont demander rapidement, c'est OK, mais nous, on prend un pourcentage sur le courant de l'impôt, quoi.
Séverine, est-ce que cela va avoir des conséquences sur les agents, pour le coup ? On sait très bien que vous êtes face à, depuis un certain nombre d'années, à un plan stratégique. Est-ce que ça, cette retenue à la source va avoir des conséquences sur les agents ou pas ?
On est déjà une administration exemplaire puisqu'on a perdu 30 000 suppressions d'emplois en 10 ans. En Haute-Garonne, depuis 2009, c'est déjà 164 emplois supprimés. Donc on a déjà vécu beaucoup de plans de suppression. Quand les entreprises sont passées à l'obligation d'utiliser les modes dématérialisés et Internet, on a eu une vague de suppression. Là, on se doute bien qu'il va y avoir une nouvelle vague de suppression avec cette mise en place du prélèvement à la source. Mais comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, la période de déclaration va continuer à exister un an après pour régulariser son impôt. Donc au final, le travail des agents de l'administration sera le même. On aura par contre beaucoup plus de difficultés à récupérer, à mettre en recouvrement ces impôts-là auprès des entreprises. C'est juste plus le centre des impôts des particuliers qui s'occupera peut-être de ce recouvrement ou les anciennes trésoreries, mais plutôt plus le service des impôts des entreprises qui est déjà un service sinistré. Donc on se doute qu'on aura de nouvelles suppressions d'emplois. De toute façon, elles ne se sont pas arrêtées depuis 10 ans malgré les gouvernements successifs.
Oui, justement, Alexandre Derigny, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre cette saignée que connaissent les finances publiques et puis le discours, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, au tout début, le discours médiatique des hommes politiques, ils disent il faut lutter contre l'évasion fiscale, il y a vraiment un vrai paradoxe là, puisque si on a besoin de lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, prélever l'impôt, on a besoin d'avoir des fonctionnaires aux impôts.
Ouais, alors je prends le problème sur le ton de la rigolade ou en pleurant, donc il faut plutôt le prendre sous le ton de la rigolade. Moi, je me souviens de réunion il n'y a pas très longtemps de ça. Comme interlocuteur, on avait en face de nous Jérôme Cahuzac, qui se présentait vraiment comme le pourfendeur de la fraude fiscale et qui allait mettre fin à ce phénomène. Donc, il faut plutôt en rire. On se rend bien compte qu'entre le discours et la volonté réelle, il y a un monde. Moi, je suis désolé de le dire. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne pense pas que les politiques actuelles, et ça dans quasiment l'ensemble des pays développés, aient l'intention de s'attaquer réellement à la fraude fiscale. Effectivement, la réalité, c'est que alors que les conseillers fiscaux pullulent un peu partout, dans la réalité, partout dans le monde, on supprime des postes de personnes qui sont censées lutter concrètement tous les jours contre la fraude fiscale. Il y a de moins en moins de vérificateurs. Alors bon, c'est peut-être un peu simpliste de voir les choses comme ça, mais c'est quand même c'est un indice important. De la même façon, lorsqu'on parle de la lutte réelle contre les paradis fiscaux, il y a des moyens simples de siffler la fin de la récré. Il y a des choses qui ne sont pas si compliquées que ça au niveau international pour mettre fin aux paradis fiscaux. Or, il n'y a pas cette volonté politique.
Ouais. J'évoque ça parce que, justement, il y a eu une affaire, hein, on te garante, puisque des emplois de vérificateurs... On nous a dit qu'ils allaient être sanctuarisés et ne le sont pas, voire même certains ont disparu. Et pourtant, selon des documents communiqués aux organisations syndicales, là je lis votre tract, hein, pour le comité technique local du 18 décembre, un vérificateur rapporterait en moyenne 500 000 euros dans les caisses de l'État. C'est, là encore une fois, c'est la preuve qu'il y a un manque de volonté politique.
Oui, on cherche la logique, effectivement. Nous, on est donc en Haute-Garonne, il y a une suppression de 2 emplois de vérificateurs, donc à 500 000 euros en moyenne chacun. C'est marrant, ça tombe sur 1 milliard, 500 000 plus 500 000, ça fait 1 milliard. C'est l'évaluation de la fraude fiscale en Haute-Garonne. Donc il n'y a vraiment pas de volonté politique de combattre la fraude fiscale. Ça, c'est une évidence. J'ai parlé aussi des suppressions d'emplois, mais je voudrais aussi juste ajouter un petit mot parce qu'il y a une autre forme de maltraitance de notre administration, qui sont les emplois vacants. Donc, c'est des emplois qui sont budgétaires et on arrive là sur, mais qui sont pas pourvus, faute de recrutement par concours, donc des agents d'administration. Et là, au 1er septembre, on arriverait en France à quasiment 4000 emplois B et C non pourvus. Donc, c'est les suppressions d'emplois de demain. Et pour compenser ça, le prochain recrutement des cadres C dans l'administration, c'est 1100. Donc, on est loin du compte. Donc, il n'y a vraiment pas de volonté politique à combattre la fraude fiscale. C'est une évidence.
J'étais largué, on dit ici à Lourdes, dans ce que l'on appelle une famille lourde. L'amour y était le contraire du doute, la tête collée contre le poêle à mazout. Et j'ose même dire dans le coton, attendre comme dessine un mouton.
Mouton,
je l'ai été jusque dans la tonsure, mais les brochures font pas dans la littérature. Et la main de ma mère était là en cas de doute, comme un parapluie qui te protège des gouttes
de pluie.
Et j'ose même dire du mauvais temps, on avait rien, on était content. Avant qu'on me dise dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant. Avant. Petit j'étais gentil, j'étais même agréable. J'écrivais les deux coudes posés sur la table. J'ôtais de ma bouche les insanités, comme un petit prince de l'humanité. Je cédais ma place aux personnes âgées, pour un sourire, une poignée de dragées. J'enlevais ma casquette en entrant à l'école, mais être poli ça dispense pas d'école.
Gentil
et tout à la fois dernier de la classe, éveillé comme pouvait l'être une limace.
Je dormais,
j'osais même le dire si profond, et que s'écroule le plafond. Avant qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant. Avant. Car j'attendais petit prince des gloutons, qu'on me porte à la bouche des paquets de bonbons. Y'avait pas la monnaie, mais c'était tout comme, car le baiser remplaçait l'économe. Et malgré les corvées de charbon, ma récompense était un bisou à l'horizon. Et dépassé le siècle où on te met au couvent, j'étais si nul, ma mère a pris les devants. Et se pointait à l'école un chiffon dans la chevelure. La maîtresse disait,
regarde ses ratures.
Le cœur en miettes, elle faisait parler l'eau et le sel. Et sans retourner à sa vaisselle. Avant qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant. Avant. À 18h se pointait le maçon, un seul regard et à l'heure des cuissons il disait,
vous voulez qu'on nous coupe les bourses?
À ces mots une larme descend de la grande ours. Et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une façon d'apprendre l'art de la multiplication. Depuis j'ai plus voulu ressembler aux statues, et j'ai laissé mes potes à la salle du muscu. Ma mère m'a jeté un bouquin sur la table,
un gros machin qui est entré par dans mon cartable.
C'est tous ces mots qui ont allumé la lumière, les spéciales dédicaces au petit Robert. Avant qu'on me dise dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant. Avant. Avant.
Petit. Rêveur.
D'accord, alors là on a parlé évidemment de l'impôt sur le revenu, on a parlé de l'impôt sur les particuliers. Alors, dans un article de la NVO, vous rappelez que les recettes perçues au titre de l'impôt sur les sociétés dans les 34 pays membres de l'OCDE ont reculé de 3,6 à 2,8% du PIB. On a vu en France qu'en 2016, le ministère des Finances promettait un total de 33 milliards d'euros de soutien aux entreprises, avec notamment le CICE et puis la suppression de la contribution exceptionnelle. Or, ces cadeaux fiscaux pèsent sur les ménages, mais surtout, on voit bien que sur le plan économique, politique, social, ça ne mène à rien, puisque le chômage est toujours aussi important et puis la désindustrialisation en France perdure. Justement, un mot sur ces cadeaux fiscaux faits au patronat, comme peut le dire la CGT. Alexandre Derrigny.
Ouais, ben on le dénonce d'une manière régulière. On le dénonce pourquoi ? Parce que c'est un chèque en blanc qui est fait d'une manière totalement aveugle, donc au grand groupe. Nous, ce que l'on réclame...
Parce que c'est sans contrepartie. Oui,
voilà, nous, ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait des contreparties. C'est-à-dire, pourquoi pas aider les entreprises qui auraient un comportement vertueux ? Une entreprise qui créerait de l'emploi, une entreprise qui investirait dans l'outil productif, qui mettrait en place des éléments permettant la préservation de l'environnement, etc., ben, pourrait être aidée. Ça, c'est de l'incitation fiscale. Or là, on n'est pas dans une logique d'incitation fiscale, on est vraiment dans une logique, en fait, de financement public des actionnaires de ces mêmes grands groupes, parce que concomitamment à ces cadeaux fiscaux, eh bien, on voit tout le temps les versements des dividendes qui augmentent dans ces mêmes groupes. Et ce qui est le plus choquant, c'est qu'une fois encore, on a une politique à deux vitesses. C'est un petit peu, parce que c'est intéressant, on revient aussi au consentement. C'est que d'un, on se rend compte que les entreprises sont choyées et que les particuliers doivent mettre la main à la poche. Ça a été le cas au niveau local, parce qu'on a supprimé la taxe professionnelle et d'un autre côté, on ne s'est pas gêné. Et forcément, les collectivités, elles n'avaient pas le choix. Elles ont été obligées d'augmenter les impôts des particuliers, donc la taxe d'habitation, la taxe foncière, toutes les taxes annexes. Et on se rend compte également que pour les entreprises, à qui tous ces cadeaux profitent ? Ça profite aux plus grands groupes. C'est-à-dire que la PME du coin, bah, elle n'en voit pas le jour, elle paye des taux... réel d'impôts très importants, alors que les grands groupes, pour certains, ne payent rien du tout. Ouais. Et c'est la même chose pour les particuliers. Et c'est en ça où on a quand même un problème, à mon avis, de consentement à l'impôt. C'est que d'un côté, bah, il y en a qui mettent la main à la poche. Bah, ça paraît normal, on l'a dit, Séverine l'a dit, l'impôt, bah, c'est pas notre ennemi, hein, c'est pas un gros boulet qu'on traîne tous les matins. Hein, c'est ce qui nous permet d'avoir une école gratuite, d'être bien soigné, d'avoir des routes sur lesquelles on peut rouler en sécurité, etc. Donc certes, c'est pas un boulet, mais on a envie que tout le monde contribue à hauteur de ses moyens. Et donc ça, il y a peut-être un souci. Quand on croise ça avec la fraude fiscale et avec l'impunité qui est également organisée, parce que Boris en a un petit peu parlé, mais la cellule de dégrisement, si ça c'est quand même pas un truc de dingue, c'est quand même fou. C'est-à-dire, on va expliquer, attention, il faut que tout soit dans les clous, et puis en même temps, on dit, ah bah oui, vous aviez des comptes en Suisse, à droite, à gauche, bah, allez, ramenez-nous votre argent, et puis ça se passera bien, une petite tape sur les doigts, et c'est fini. De la même façon, il faut quand même rappeler une chose. Lorsque on parle de la fraude fiscale et de la délinquance en col blanc, mais en France, on est tranquille, combien il y a de personnes qui sont aujourd'hui sous les verrous parce qu'elles ont fait un hold-up, parce que c'est un hold-up, quelquefois de plusieurs millions d'euros. Vous avez un petit jeune qui va dévaliser la supérette du coin pour 1000 euros, lui, il va se retrouver en tôle. Par contre, vous avez un patron véreux qui subtilise des millions d'euros, donc qui vont manquer dans les hôpitaux et tout ça, il va peut-être en ricochet tuer des personnes parce qu'on a dû fermer un hôpital de proximité, et lui, il s'en sort tranquillement sans poursuite pénale. Là aussi, que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il y ait un réel durcissement de l'arsenal juridique afin que les fraudeurs puissent être inquiétés pénalement alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui.
C'est donc, ce qu'on a vu en 2008, notamment aussi par exemple avec les banquiers. Aucun d'entre eux n'a été poursuivi. Alors pour justement rebondir sur ce que vous disiez, vous rappelez là encore une fois avec un dossier de la NVO que le MEDEF réclame un plafonnement des impôts locaux des entreprises et une baisse du taux de l'impôt sur les sociétés. Il demande aussi la suppression de l'ISF et la mise en place d'une taxe forfaitaire sur les plus-values mobilières, dividendes et intérêts. Là, on voit bien, justement, on revient à ce que vous disiez. Quelles seraient alors les solutions pour retrouver un système fiscal plus égalitaire, plus cohérent ? Vous développez évidemment hein, dans vos documents les solutions qui seraient que propose la CGT. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'en exposer quelques-unes ?
Boris, déjà la première, c'est le seul impôt qui reste progressif maintenant, c'est l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que lui, même si après, voilà, on l'a dit, il n'est pas tout à fait juste parce qu'il a perdu beaucoup de sa qualité de progressivité. Hein. On est le 10 mai aujourd'hui. quand la gauche, il y a 35 ans, était au pouvoir, on avait encore 25 tranches sur l'impôt sur le revenu. Le taux marginal, c'est le dernier taux qui était pas 45%, mais à plus de 60%.
65.
Voilà. Bon, bah, 35 ans après, on en est à 5 tranches, 45% de dernier taux. Voilà. Donc, il y a déjà un rang de la progressivité. Et après, arrêter de faire augmenter les impôts qui sont les plus injustes. Je veux revenir sur la TVA, c'est une des propositions qu'on fait. On revient sur le fameux rapport Gallois quand François Hollande avait été président de la République. Il avait toujours tout de suite commissionné M. Gallois pour faire un rapport. Il en était sorti le crédit impôt compétitif des emplois de ce rapport. Et surtout au 1er janvier 2014, bingo, hausse de la TVA pour en contrepartie compenser les cadeaux aux entreprises. Et qui paye la TVA ? Tout le monde. Et surtout, ça pèse plus sur les pauvres que sur les riches, quoi, proportionnellement. Donc, une des propositions qu'on fait, c'est redonner de la progressivité à l'impôt sur le revenu, de revoir aussi le taux d'imposition de la TVA, c'est de le passer à 15%. Et on voit qu'avec les simulations, hein, j'invite tout le monde à aller sur le site www.justicefiscale.fr, il y a un simulateur. Il y a aussi tous les documents qu'on a pu distribuer ce matin.
Ça, c'est quelque chose que vous faites chaque année.
On fait chaque année, très large. Ouais. Mais surtout, c'est très important parce qu'on voit que les propositions qui sont faites par la CGT, ça ne va pas mettre en banqueroute les caisses de l'État. Bien au contraire, notamment pour la TVA, ça va faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Et par contre, ça fera rentrer de l'argent un peu plus de façon vertueuse, quoi. Mmh. C'est-à-dire que chacun contribuera en fonction de ses moyens. On reviendra presque au temps de la Révolution française, quoi. Mais
vous proposez aussi d'introduire les revenus dans le calcul des taxes locales.
Oui.
Ces taxes locales qui elles, pour le coup, augmentent évidemment parce que maintenant un certain nombre de communes sont parfois dans de grosses difficultés.
Parce que notamment pour la taxe d'habitation, oui, la part des revenus des particuliers sont pas assez prises en compte dans le calcul. La taxe d'habitation. Et après, il faut aussi, je pense, ce qu'a dit un petit peu tout à l'heure Alexandre, c'est-à-dire les impôts par rapport aux entreprises, c'est qu'il y ait aussi une progressivité, je ne sais pas comment, mais en fonction de leur politique salariale, de leur politique environnementale, de leur politique aussi par rapport aux droits des salariés. Ce qui permet à des syndicats dignes de ce nom de se créer, etc., quoi, pas d'avoir un syndicat maison comme on peut connaître, quoi. Donc tout ça, il y a des propositions qui commencent à faire leur chemin. Je reviens à ce fameux rapport parlementaire du Sénat en 2012 où il y avait des propositions qui sont entrecoupées avec les propositions que peut faire la CGT.
Et vous revenez aussi sur une taxe des transactions financières,
bien sûr.
Taxe du capital, qui a été longtemps défendue, notamment par attaque avec la taxe Tobin et tout ça. Alexandre Derigny.
Pour lutter justement contre les paradis fiscaux, on aurait une véritable taxe sur les transactions financières. Il est évident que ça limiterait l'intérêt d'aller dans des paradis fiscaux. Si on taxe les flux financiers, ça serait déjà un élément très simple à mettre en œuvre qui permettrait d'avoir des recettes fiscales et en plus de limiter ce genre de comportement. Ensuite, je pense qu'en matière d'impôts, souvent, on a quand même beaucoup bourré le mou de tout le monde en disant non, la fiscalité, fiscalité extrêmement importante qui écrase l'ensemble des citoyens. Mais c'est absolument faux. L'intérêt d'un système fiscal, c'est d'arriver à récupérer de l'argent pour pouvoir assumer et payer les services public, etc., ce dont on a besoin. Et en réalité, la richesse, elle continue d'augmenter en France. Et il y a des gens qui sont de plus en plus riches. Les inégalités sont de plus en plus importantes. Donc la question à se poser, c'est pas de savoir quelle masse, mais vers qui on se tourne pour financer les services dont on a tous besoin. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsque l'on voit que les niches fiscales, elles sont accaparées pour plus de 2/3 seulement par les 10% les plus riches, on se rend compte qu'il y a des gens qui se gavent effectivement, ils ont énormément de revenus et en plus de ça, on les fait moins contribuer. Donc c'est ça la question, c'est qu'il faut remettre à plat un service fiscal qui soit réellement juste et efficace pour aller chercher tout simplement l'argent là où il se trouve parce qu'il y a effectivement des richesses dans ce pays. On n'est pas un pays incapable d'avoir des ambitions sociales, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire.
Séverine, on a bientôt fini cette émission. J'aimerais quand même qu'on revienne sur la situation toulousaine, ou en tout cas au Garonnaise. On a vu un certain nombre de bureaux de trésorerie menacés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelles sont les batailles en cours? Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la situation?
Alors, en 2015, on a réussi, donc la CGT Finances Publiques Haute-Garonne a porté un combat pour sauver la seule trésorerie qui était menacée de fermeture, qui était celle de l'Île-en-Dodon. Donc on a réussi avec les élus et la population, c'est une mobilisation de tous, il faut aussi qu'ils soient conscients du service public qu'apportent les trésoreries de proximité. Donc en 2015 on l'a sauvée, en 2016 elle est à nouveau menacée, cette trésorerie là, donc l'Île-en-Dodon, accompagnée de deux autres trésoreries, Aurignac et Aspé, qui étaient déjà menacées en 2008 et qui ont été sauvées de la même manière en 2008.
Il y a Nayou et Villefranche-Loireg aussi, non?
Non, pour 2017 il y a que ceux-là. D'accord. Et en fait le directeur s'est occupé que du Comminges. Donc il a regardé que les trésoreries dans le Comminges. Donc c'est son plan pour le Comminges, c'est une fermeture de trois trésoreries pour sauver le Comminges.
Ah, et d'accord.
Je reprends ses propres mots. Sauvons le Comminges, fermons trois trésoreries. Et les autres, je pense que Nayou Villefranche, il les regardera pour l'année prochaine. Ouais. Donc
pourtant, dans le Comminges,
C'est là où il y a le plus besoin.
Il y a de moins en moins de services publics et des entreprises qui, évidemment, concomitamment à ce phénomène-là, s'en vont. Donc,
C'est vrai qu'on sait que de toute façon, dès que la trésorerie ferme, la poste suit derrière. Derrière encore, c'est forcément une classe ou deux, puisque s'il y a plus de services
publics... Vous êtes en train
de
nous dire que le Comminges va être de plus en plus sinistré, quoi.
Un peu, malheureusement. Non, mais c'est vrai que c'est une chose qu'on combat et c'est vrai que c'est donc quand on nous dit on va sauver le Comminges en supprimant le service public, il faut pas avoir peur des mots pour dire ça quand même. Et donc ensuite sur la Haute-Garonne, donc il y a ces trois fermetures de trésorerie qui sont annoncées donc pour le 1er janvier 2017 ou 2018. La marge de manœuvre avec les élus c'est 2017 ou 2018 pour le directeur. Il y a déjà en 2015 aussi on a vu que les horaires d'ouverture au public ont été diminués en mars 2015. On a perdu plus de 20% des horaires d'ouverture, donc soit les mercredis, soit les vendredis, les jours où les gens ont le plus besoin, enfin, ont le plus de temps libre, disons, pour venir dans nos services. On a des fusions de services et des départementalisations de missions, comme la mission enregistrement, qui va être centralisée à Toulouse et peut-être maintenue à Saint-Gaudens. Normalement, ça fait partie du plan du sauvetage du Comminges. Donc, le fait d'avoir maintenu la trésorerie l'année dernière, on aura peut-être maintenu le service enregistrement sur Saint-Gaudens. On a des fusions de services aussi qui sont annoncées. Donc, tout ça, c'est de l'industrialisation. Enfin, ça nous met devant nos missions et on sait que de toute façon, on le voit déjà sur certains autres services, l'organisation du travail est en train d'être mis sacrément à mal sur... c'est une forme d'industrialisation des missions.
Avec un nouveau management qui se met en place.
Avec un nouveau management. Et une dernière chose qui nous est promis aussi, au 1er septembre 2016, donc c'est demain, la création d'un centre de contact. Donc là, on arrive sur un service comme on connaît sur le centre prélèvement service, mais... Pour l'instant, l'administration était quand même épargnée sur ce genre de service. C'est un service qui sera, il y en aura deux en France, un à Valence dans la Drôme et l'autre à Carcassonne. Donc la Haute-Garonne va être gérée par Carcassonne. C'est un service de plateforme de réponse téléphonique et mail. Donc ce sont des appels minutés et facturés. Voilà l'image, ce que voudraient nos directeurs pour notre service public.
Alors, je sais que vous avez aussi mené des actions en parallèle avec les actions menées par la douane. Enfin, la CGT des douanes, d'ailleurs, est actuellement en congrès jusqu'au 13 mai. Ça va continuer. Vous allez essayer ensemble de mener ces actions-là ou pas?
Bien sûr, c'est d'essayer d'avoir une même voie, on va dire, finance. Puisque les douaniers ont supporté, comme nous, un nombre conséquent de suppressions d'emplois. Les questions environnementales, les questions de frontières, non pas pour fermer les frontières, je dirais les questions migratoires, mais par rapport à l'importation des produits qui viennent souvent de pays où ils ne regardent pas trop sur les produits toxiques qu'ils peuvent mettre pour pouvoir payer au moindre coût et après facturer par contre lourdement aux consommateurs. Donc on continue de travailler ensemble, on a prochainement des rendez-vous vis-à-vis des élus, puisque, comme on l'a dit, hein, quand il y a une trésorerie qui ferme, ça peut être la recette des douanes demain, et on a le même phénomène de départementalisation, voire de régionalisation, puisque avec la nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, on accueille ici à Toulouse une partie des missions des finances publiques, à Montpellier va avoir aussi d'autres missions.
Ça c'est
missions.
Dans le cadre de la loi NOTRe, c'est ça?
Non, ça c'est le cas, enfin en partie quoi, c'est-à-dire la loi, enfin les régions faisaient partie de la réforme territoriale, mais avec la loi NOTRe, ça va aller encore plus loin parce qu'après il va y avoir les métropolisations accrues, et puis on en revient toujours, c'est l'aménagement du territoire, c'est-à-dire on va sur fermer les services publics par exemple comme dans le Comminges, et après les entreprises elles vont s'installer plutôt sur la métropole toulousaine parce que c'est là qu'il y aurait l'emploi, c'est là qu'il y aurait tout, sauf qu'il y aura pas le logement, les gens vont devoir aller ailleurs, enfin il y a c'est très large, et après c'est comment on finance les transports, comment on finance le logement. On pourrait aussi développer sur le livret A qui a été complètement dénaturé par rapport à ce qui devait être pour financer le logement social. Donc on va continuer les actions dans un cadre finance publique, finance et interprofessionnel aussi, parce que dès qu'on fait des réunions qu'on a pu faire aujourd'hui avec nos camarades largement, ça intéresse tout le monde, et non pas pour vulgariser proprement la fiscalité, mais donner des arguments aux copains quand ils sont dans les comités d'entreprise sur le crédit impôt compétitivité emploi. Des fois ils ont du mal d'avoir les informations, et ils comprennent après que quand l'entreprise leur dit que finalement j'ai bénéficié de X milliers d'euros et qu'après je licencie, il y a un petit problème par rapport à la fameuse contrepartie que disait Alexandre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des fois des cadeaux, mais aucune contrepartie, donc il faut qu'on se rempare, les citoyens, les salariés, du contrôle de l'impôt. Quoi.
D'accord. Dernière question, et ensuite on achèvera cette émission. Il y a évidemment aujourd'hui une forte mobilisation contre la loi travail. Est-ce que il peut être fait des liens entre ce que vous connaissez aujourd'hui et puis toutes ces questions fiscales et la destruction du code du travail comme cela se prépare, Alexandre Derigny, peut-être?
On le voit, oui, on voit très nettement qu'il y a un petit peu deux mondes qui s'opposent, hein, c'est-à-dire que on est de plus en plus sévère, de plus en plus dur avec un monde, hein, le monde des gens qui se lèvent pour aller gagner leur croûte, et puis on est de plus en plus tolérant, sympathique, et on offre de plus en plus de possibilités à un tout petit monde de se faire de plus en plus de profits. Et la loi travail rentre tout à fait dans cette logique. Il y a des cadeaux fiscaux qui sont faits aux plus riches, aux plus puissants. Et puis, il y a aussi ces, entre guillemets, cadeaux sociaux qui sont faits aux plus riches, aux plus puissants, et qui vont rendre la vie quotidienne du plus grand nombre de plus en plus difficile. Donc, je crois vraiment qu'il est plus qu'urgent que chacun se mobilise, parce que c'est vraiment pas l'affaire de quelques-uns. C'est vraiment l'affaire de tous, et toute une vision de la société dans laquelle nous vivons qui est vraiment en danger. Et donc, je crois que plus que jamais sur tous ces enjeux sont intimement liés, et c'est tous ensemble qu'il nous faut construire une autre société bien plus juste, plus fraternelle, et qui sera porteuse de beaucoup plus d'espoir.
Très bien, mais sur ces mots qu'on va... On va arrêter cette émission. Merci à tous les trois. Je rappelle que nous étions avec Alexandre Derigny, secrétaire fédéral de la Fédération des Finances CGT, Séverine Bolognesi-Fourcade et Boris Baudouin, tous les deux membres de la CGT Finances Publiques 31. Séverine, tu es secrétaire voilà. Merci à tous les trois. Au revoir. Thank you.